nzamba
nzambira samirana
Le journal avec
Bertrand Gendakouliou.
Vous êtes bien sûr la radio Inzamba Gatika Kawe, merci pour votre fidélité. C'est le moment du journal en français. Voici d'abord les principaux titres qui feront l'actualité de cette édition. Au sommaire, des militants de l'opposition dans la commune de Manda dénonçaient d'importantes irrégularités survenues ce mercredi lors de la distribution des cartes d'électeurs, notamment l'absence de cartes pour certains inscrits et la présence de doublons d'électeurs sous un même nom. Armongué, cette situation a même conduit à la suspension des activités commerciales, forçant les habitants à se rendre dans les centres de retrait. Le 14 mai, une date sombre pour la presse burundaise. Elle marque la commémoration des 10 ans de la destruction violente des médias indépendants au Burundi par le régime du CNDD-FDD, une tragédie qui a profondément affecté la liberté de la presse et les droits civiques dans le pays. Les détails à retrouver en fin d'édition dans le mini-magazine Au cœur de la société. Enfin, l'initiative rapide Seruka appelle les organisations régionales et internationales à agir en urgence pour une issue pacifique à la crise burundaise. Dans un mémorandum publié ce mercredi, elle met l'accent sur l'application des décisions de la Cour de justice de la communauté est-africaine. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes mercredi 14 mai 2025. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons tout de suite avec cette situation électorale dans la province de Bubanza où les militants des partis de l'opposition dans la commune de Manda dénoncent l'absence des cartes d'électeurs pour certaines personnes inscrites ainsi que des cas où plusieurs électeurs sont appelés sous un même nom. Selon eux, ces irrégularités compromettent la transparence du processus électoral. Les précisions avec Jean-Georges Kibogola.
Les militants des partis politiques de l'opposition disent avoir constaté des irrégularités depuis le début de l'opération de retrait des cartes d'électeurs, et cela dans beaucoup de collines qui composent la commune de Manda. Ils disent ne pas comprendre notamment comment un seul nom est appelé plus de 4 fois, mais que finalement la personne ne reçoit qu'une seule carte. Ils se demandent où vont les autres cartes. Ce n'est pas tout. Certaines personnes n'arrivent pas à trouver leur carte d'électeur. Ils pensent que leurs cartes ont été subtilisées pour être utilisées par d'autres personnes. Ces militants des partis politiques de l'opposition dans cette commune lancent un cri d'alarme.
Quand tu vas récupérer ta carte d'électeur et que tu es connu comme un militant d'un parti de l'opposition, on s'arrange pour faire disparaître ta carte et on te dit qu'on ne la voit pas. En réalité, on le fait exprès. On la cache pour la donner à quelqu'un d'autre. Comme ça, il pourra voter 2 fois. Cela se remarque à plusieurs endroits sur les collines de la commune Manda. Aujourd'hui, nous avons constaté quelque chose de plus grave encore. Un même nom pouvait être appelé 4 fois sur 4 cartes d'électeurs. À la fin, la personne ne revoit qu'une seule carte. Et on se demande où vont les 3 autres cartes.
Ces habitants appellent la CECI Manda et l'administration locale d'être vigilants et de corriger ces irrégularités pour la bonne marche de l'opération.
Pour nous, c'est un problème sérieux. Nous demandons que ces tricheries cessent, que la CENI fasse quelque chose sur cette question en rapport avec plusieurs cartes qui sortent sur un même nom. Nous voulons que les élections soient des élections paisibles et bien organisées.
Pour avoir des éclairages sur ce sujet, la rédaction Inzamba Agatekao, nous avons cherché la réaction de l'administrateur communal et des responsables de la CECI Manda, mais sans succès.
Jean-Georges Kibogola, et justement face à cette situation, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer une prolongation du délai de retrait des cartes et d'électeurs jusqu'au 15 mai 2025. Dans son communiqué, la CENI indique que certaines personnes n'avaient pas encore retrouvé leurs cartes, mais que celles-ci sont désormais disponibles. Les électeurs qui ne les auront pas retirées avant cette date pourront les récupérer auprès des bureaux communaux de la commission électorale communale indépendance, ceci entre le 16 mai et le 2 juin 2025. S'agissant des militaires burundais en mission de maintien de la paix à l'étranger, leurs cartes leur seront remises directement par leurs supérieurs là où ils sont déployés. Pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays, mais dans une commune différente de celle où ils se sont inscrits, les cartes seront confiées aux responsables locaux pour distribution. Quant aux Burundais résidant à l'étranger, leurs cartes sont en cours d'acheminement vers les ambassades du Burundi dans les pays concernés. Ils pourront les retirer selon les modalités fixées par les représentations diplomatiques dès leur réception. Toujours en lien avec la mobilisation électorale, le marché central de Lubangé ainsi que plusieurs quartiers environnants ont vu leurs activités commerciales suspendues sur le crédit matin. Des boutiques ont été fermées sur décision conjointe de certains responsables du marché et des membres de la Ligue des Jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir. L'objectif de cette mesure était de contraindre les habitants à se rendre dans les bureaux de vote pour retirer leur carte d'électeur. Cette décision a suscité l'indignation de nombreux habitants. Le point avec Julienne Muzinga.
Depuis la matinée de ce mercredi, les activités commerciales ont été paralysées au marché central de Lumongue ainsi que dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la province. Des boutiques ont été fermées sur décision conjointe de certains responsables du marché et des membres des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Selon les informations recueillies à Lumongue, cette fermeture vise à contraindre les habitants à aller récupérer leurs cartes d'électeur dans les différents bureaux de vote. Cette décision qui intervient alors que ce mercredi est supposé être le dernier jour prévu pour cette opération, sauf en cas de prolongation selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, cette démarche suscite l'indignation au sein de la population. Plusieurs habitants de Lumongue dénoncent une pression injustifiée. Ils estiment que ce n'est pas en fermant les boutiques qu'on va aller voter. Selon eux, des autorités devraient plutôt se concentrer sur la disponibilité de produits de première nécessité comme l'essence, produits devenus rares depuis plus de 4 ans et dont dépendent toutes les difficultés dans le pays. D'autre part, plusieurs habitants affirment ne pas figurer sur les listes disponibles au bureau de vote malgré leur volonté de retirer leurs cartes. De leur côté, des militants du parti au pouvoir s'inquiètent de la faible mobilisation dans certains quartiers, ce qui explique, selon eux, cette mesure d'exception. Toutefois, certains citoyens estiment le manque d'enthousiasme s'explique par l'absence d'un véritable pluralisme politique. Ils déplorent que ces élections ne concernent qu'un seul parti, dont le manque généralisé de motivation.
Merci à toi, Julienne Muzinga. Direction maintenant à Muyinga. Là aussi, la journée a été marquée par la fermeture du marché et des commerces jusqu'à 14h de ce mercredi. Ces décisions visaient à contraindre toute la population militante ou non du parti au pouvoir à participer à une campagne électorale locale. Une mesure qui a mis en détresse de nombreuses familles. Jean-Marie Drachinze nous en dit plus.
La vie était au point mort ce mercredi matin au chef-lieu de la province de Muyinga et dans ses environs, ont rapporté plusieurs habitants à la radio Nzamba Agathe Kakawe. Le marché central ainsi que les petites boutiques autour du centre provincial sont restées fermées de bonne heure jusqu'à 14h. Selon les témoignages des administratifs, des agents de l'ordre et des membres de la milice Imbonerakure, ont contraint les commerçants à participer à la campagne électorale et du CNDD-FTD pour les élections législatives et communales. Certaines familles ont exprimé leur mécontentement face à cette situation, n'ayant pas pu s'approvisionner en vivres pour préparer à manger. « Je suis très déçu », confie un citoyen.
Pourquoi nous n'avons pas simplement suspendu les activités des seuls membres du parti CNDD-FTD afin que seuls participent à la campagne électorale? Ou plutôt contraindre des personnes qui ne sont même pas membres de ce parti à y prendre part, alors qu'on sait parfaitement qu'elles ne voteront pas pour lui? C'est une façon de nous nuire, comme cela a déjà été fait à plusieurs reprises. Il est choquant de voir des familles avec des enfants sans aucun endroit où acheter de quoi manger. Que dire de celles qui n'avaient rien prévu pour la journée? Aujourd'hui, certains enfants sont restés toute la journée sans rien avaler. Est-ce cela le rôle des administratifs et des agents chargés de la sécurité? Ils justifient cette situation par la venue du chef de l'État. Mais un chef de l'État censé être garant du bien-être des citoyens, ne devrait-il pas plutôt veiller à la sécurité et aux besoins fondamentaux des familles?
Les personnes affectées appellent les autorités à mettre fin aux mauvais traitements infligés à la population qui, selon elles, dure depuis l'arrivée du Saint-Déf-TD au pouvoir. Elles demandent plutôt aux dirigeants de se soucier du bien-être de tous.
Merci également à toi Jean-Marie Dabachinize. Poursuivons cette édition. L'initiative rapide du Seroukra interpelle les organisations régionales et internationales sur l'urgence de parvenir à une résolution pacifique de la crise burundaise. Dans un mémorandum rendu public ce mercredi, elle insiste sur la nécessité de mettre en œuvre les décisions rendues par la Cour de justice de la communauté est-africaine. Le contenu de ce mémorandum vous est présenté par Jean-Baptiste Vidira.
Selon ce mémorandum de l'initiative rapide et Seluka qui exige une résolution pacifique de la crise burundaise qui remonte de 2015 lorsque le président Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un troisième mandat en violation de la constitution et des accords d'Arusha. Malgré ces vives objections des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi qu'un effort de médiation mené par la communauté de l'Afrique de l'Est et le président ougandais Yoweri Museveni, le président Nkurunziza a continué son forcing jusqu'à la tenue de ces élections qui ont entraîné des pleurs dans plusieurs milieux des Burundais. C'est à partir de cette période où le pays a été témoin des violations systématiques des droits de l'homme, y compris des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, le démantèlement de la société civile, la fermeture des médias indépendants, sans oublier la suspension des partis politiques et de l'opposition. Cela a poussé certains leaders politiques à prendre le chemin de l'exil. Cette situation n'a pas changé sous le régime Ndayishimiye. La répression continue avec des conflits régionaux. Aujourd'hui, la population vit dans une extrême pauvreté. L'économie du pays est au point mort et la corruption atteint le niveau le plus élevé. L'initiative rapide de Seluka estime que des mesures urgentes pacifique s'impose pour sauver le pays de la dérive. L'initiative rapide de Seluka estime qu'étant donné que le Burundi fait objet d'une enquête de la Cour pénale internationale pour les crimes contre l'humanité, recommande d'éviter tout partenariat susceptible de contribuer au renforcement de l'État dans l'exécution de ces crimes. À l'intention de l'Union européenne et aux États membres, parmi les grandes recommandations, l'initiative rapide et Seluka demande à cette institution de conditionner toute coopération économique, politique ou financière à la conformité des partenaires des droits de l'homme. L'initiative se tourne du côté de l'Union africaine où elle demande d'exiger au gouvernement burundais de mettre en application les décisions de l'accord de l'EAC rendues en novembre 2021. Il est également demandé à la communauté est-africaine parmi l'une des recommandations d'insister sur le respect des décisions de la Cour est-africaine de justice, notamment celles condamnant le troisième mandat du président Nkurunziza. Il est également recommandé à l'EAC d'exiger la suspension du processus électoral en cours et la convocation d'un dialogue national inclusif pour permettre au pays de sortir de cette crise. Enfin, à l'ONU, qui est fondée sur les principes de protection des populations civiles, de promotion des droits de l'homme et de soutien à la démocratie, cette organisation est appelée à prendre en main ses responsabilités face au régime tyrannique comme celui du Burundi.
Inzamba. Poursuivons cette édition avec notre page économique. Le gouvernement du Burundi a récemment revu à la hausse le prix du café cerise, passant de 1350 à 2800 francs burundais. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres tenu la semaine dernière. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, salue cette mesure gouvernementale tout en soulignant la nécessité de l'accompagner de réformes structurelles. Écoutons Faustin Likumana, président de l'ONG locale PARSEM.
Le café est d'une importance capitale dans la vie de notre nation. D'abord, il génère des devises. Vous savez que le pays est actuellement accusé d'un manque de devises très cruel qui handicape les activités économiques, notamment l'import-export et la construction des infrastructures de base. Deuxièmement aussi, le café génère des revenus aux producteurs, aux agriculteurs. Dans le cadre de lutte contre la pauvreté, le café contribue énormément sur l'axe d'augmentation des revenus des producteurs. Notre chose importante, c'est que pour que le café puisse donner des résultats concrets au niveau de la production, au niveau du revenu des paysans, il faut augmenter la production. Il faut l'augmentation de la production et la capacité de vente à l'extérieur. Parce que si on a l'état des lieux actuel, on constate une chute vertigineuse au niveau de la production et une faible capacité de vente. On a enregistré une vente actuellement d'un stock colossal, d'un stock consistant maintenant et au sein de l'ODECA. C'est regrettable, mais c'est pour cela qu'au niveau du résultat des recettes des devises engrangées, on constate que par exemple, des produits comme les cigarettes et la farine commencent à dépasser le café. Dans ces conditions, alors, on pourrait dire que l'augmentation des prix est un facteur d'augmentation de la production parce que ça stimule la production, ça stimule le producteur, l'agriculteur, qui a depuis longtemps réclamé l'augmentation du prix parce que le travail du café est très exigeant, prend beaucoup de temps.
Pour Faustin Likumana, l'État devrait notamment mettre en place des stratégies visant à augmenter la production du café, surveiller la capacité des banques à débloquer les fonds nécessaires et contrôler les taux de change. Encore une fois, Faustin Likumana, président de la PARSEM.
Il faut reprendre la campagne de fertilisation parce que 5 ans viennent de passer alors que cette campagne n'est pas organisée régulièrement. La disponibilisation des engrais appropriés, la campagne de pulvérisation, de désinsectisation, la campagne de mise en place des plans, le travail des moniteurs agricoles pour encadrer le travail des agriculteurs à la base sont des bonnes pratiques mais qui ont été abandonnées progressivement et qui causent un tort énorme au niveau de la production du café. Sans oublier aussi la non-maîtrise de la croissance démographique qui provoque l'atomisation des terres agricoles et va faire le lit de la concurrence entre les produits vivriers et les produits d'exportation. Au niveau de la vente, il faut supprimer cette lourdeur administrative qui cause un grand retard dans l'exportation. Beaucoup d'exportateurs sont malades. Même les clients étrangers, les importateurs de l'extérieur qui importent le café Burundi se plaignent du retard entre la commande et la livraison. Manque de marketing offensif. Pour bien vendre son produit, il faut un marketing professionnel offensif avec des ressources humaines compétentes dans ce domaine. Troisième, est-ce que le taux de change sera capable vraiment de couvrir les charges actuelles qui vont augmenter au niveau des acheteurs du café, donc des exportateurs? Le taux de change de 2009, ça qui va couvrir un prix qui vient de doubler. L'augmentation du prix du café, c'est au niveau des frambours de l'économie nationale. Est-ce que l'exportateur va-t-il garder les recettes en frambours les mêmes? Les banques sont-elles préparées pour disposer au crédit à l'exportation?
Vous en avez l'habitude, comme tous les mercredis, place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, la synergie des médias RPA, Jouy Diawanya Diougou, Radio Inzamba, Gazia Kawe, la télévision Renaissance, revient sur cette date du 14 mai qui rappelle la commémoration de 10 ans après la destruction méchante des médias indépendants au Burundi par le régime du CNDD-FTD en utilisant les corps de sécurité et la milice de ce parti, Imbonerakure. Pour la synergie, la présentation est assurée par Pierre Garungu.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idouya Anagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ce 14 mai, le Burundi se souvient, 10 ans se sont écoulés depuis que, dans la tourmente politique de 2015, les voix indépendantes ont été réduites au silence. Le lendemain du coup d'État manqué contre le président Pierre Nkurunziza, le pouvoir en place a saisi l'occasion pour s'en prendre à la presse libre. 5 radios privées ont été détruites, des rédactions saccagées, du matériel réduit en cendres. des journalistes menacés, traqués, forcés à l'exil. Aujourd'hui, ces voix n'ont pas disparu. Elles se battent pour continuer à informer, à témoigner, à faire vivre le droit à la vérité. Dans notre magazine Au cœur de la société, nous revenons sur cette date marquante pour la liberté de la presse au Burundi. Pierre Gahungu est à la présentation. Bienvenue. La tentative de putsch contre le président Pierre Nkurunziza le 13 mai 2015 a offert une occasion en or au régime CNDD-FDD pour se débarrasser de certains médias privés devenus gênants. 5 radios indépendantes ont été saccagées dans la foulée. Depuis lors, les journalistes de ces médias ont été la cible de menaces constantes émanant de la police, des services de renseignement, mais aussi des Imbonerakure, la branche jeunesse du parti au pouvoir. Face à cette répression, nombre de journalistes ont été contraints à l'exil, fuyant pour sauver leur vie et continuer à exercer leur métier librement. Le rappel des faits avec David-Claude Mbananayo de la RPA.
Le 14 mai 2015, c'est le silence radio dans Bujumbura, la capitale, et dans d'autres provinces du Burundi où l'on pouvait capter les principales stations de radio privées. En effet, ces stations, la radio publique africaine RPA, la radio-télévision Renaissance, n'ont pas émis depuis la matinée du 14 mai 2015 comme d'habitude. Elle venait d'être incendiée par des hommes en tenue policière accompagnés par les Imbonerakure. Bonesha FM et la radio Isanganiro l'ont été plus tard dans l'avant-midi du 14 mai. Puis avant, la radio Rema FM, une radio du parti au pouvoir, avait été saccagée et détruite par des gens qui seraient des manifestants contre la candidature du président Nkurunziza pour le troisième mandat. Étant donné que les journalistes sont aussi pris comme des putschistes, plusieurs d'entre eux ont depuis été contraints de vivre la clandestinité, surtout les directeurs des médias incendiés. Certains vivaient déjà sous la menace de mort depuis des semaines. Les menaces se sont accentuées depuis le putsch manqué. C'est ainsi que ces journalistes ont pris le chemin de l'exil où ils vivent depuis maintenant 10 ans. L'organisation Amnesty International avait dans sa déclaration du 10 juin 2025 demandé aux autorités burundaises d'accélérer les enquêtes sur la destruction des médias et de traduire en justice toute personne soupçonnée d'en être responsable. Pourtant, jusqu'à nos jours, il n'y a toujours pas de lumière sur ces actes.
Le pouvoir du CNDD-FDD nourrissait depuis longtemps un plan de fermeture des médias, craignant une presse libre et indépendante. C'est ce qu'affirme Bob Rugulika, directeur de la radio publique africaine, l'une des radios incendiées en mai 2015.
Ce qui s'est passé le 14 mai ne résulte pas seulement de la haine du régime CNDD-FDD envers les médias indépendants. Non, il s'agit plutôt d'un projet diabolique conçu plusieurs années avant. Vous savez, ce régime, c'est un régime antidémocratique. Pour eux, ces médias étaient devenus les rares voix qui osaient dire la vérité et dénoncer les injustices, faire entendre les lamentations d'un peuple qui souffrait. Mais le pouvoir, comme un monstre, les a réduits au silence le 14 mai. Il les a détruits un à un comme on écrase des insectes. Ces radios étaient devenues des poumons de la société qui respiraient la liberté, mais elles ont été étouffées. Les journalistes, ces yeux qui voyaient tout, partout, ont été contraints à l'exil. La télévision Renaissance, je me rappelle, qui ouvrait une fenêtre sur le Burundi, a été éteinte. Et le pays, vous avez vu ce qui s'est passé, le pays a sombré dans le silence. La peur s'est installée partout. Les gens ont baissé la tête, ont murmuré leurs plaintes dans les ruelles, et d'autres ont pleuré en secret. Ces médias qui étaient devenus les seuls murs de lamentation, de ces Burundais qui n'avaient presque plus personne pour les écouter, ils étaient les derniers remparts contre la tyrannie du CNDD-FDD. Ils étaient devenus les derniers défenseurs, en fait, de la vérité. Mais voilà, c'est pour cela que le pouvoir les a détruits, et avec eux, c'est toute une société qui a été bâillonnée. Les Burundais ont été privés de leur voix, de leur capacité à exprimer leur douleur, leur colère, leur désespoir. Et maintenant, voilà les résultats. Le pays est plongé dans les ténèbres. Le Burundi est méconnaissable aujourd'hui. La peur règne en maître. Les gens vivent dans la terreur, dans l'attente de la prochaine répression, de la prochaine arrestation ou de la prochaine disparition. Mais là, le CNDD-FDD avait oublié une chose. Même dans les ténèbres, il y a toujours des voix qui murmurent, des voix qui refusent de se taire, des voix qui crient dans le désert et qui appellent à la liberté, à la justice, à la vérité. Ce sont ces voix aujourd'hui qui empêchent les tyrans burundais de dormir. Ce sont nos médias indépendants en exil.
Bob Rugulika garde néanmoins espoir. Le moment viendra, dit-il, où les médias détruits obtiendront justice et où les auteurs de ces actes devront en répondre devant la loi.
Vous savez, les responsables de cette destruction méchante de nos médias, ces hommes qui ont ordonné la répression, la torture et les assassinats, ils finiront par payer pour ces crimes. La justice peut tarder, c'est vrai, mais elle finira par triompher. Aujourd'hui, la justice n'existe plus au Burundi. Elle est utilisée comme un outil de répression des voix critiques. Mais nous avons déjà soumis nos plaintes devant les juridictions internationales, d'ailleurs qui nous ont déjà donné raison. Même si les autorités burundaises ne veulent pas appliquer les décisions judiciaires internationales, leurs crimes ne resteront pas du tout impunis. Les bourreaux, ils peuvent vraiment le savoir, ne pourront pas jouir éternellement de cette impunité. Un jour, les victimes seront entendues au Burundi, les coupables seront jugés et condamnés, les Burundais retrouveront leur dignité et leur fierté, et surtout leur liberté. Actuellement, même si les médias ont été réduits au silence, la vérité est toujours quand même exposée. Nous avons toujours des informations, nous diffusons des informations sur l'actualité au Burundi. Aujourd'hui, le monde entier connaît ce qui se passe au Burundi. Ceux qui ont détruit nos médias, ils seront traqués, ça je vous le jure. Leurs noms seront associés à la honte et à la condamnation universelle. La justice est peut-être lente pour le moment, mais elle est inévitable. Et quand elle viendra, les Burundais pourront enfin respirer, enfin vivre sans peur, enfin reconstruire leur pays sur des fondations solides de vérité, de justice et de paix.
Bob Lugulika, directeur de la RPA, s'exprimait au micro de nos confrères de la radio Inzamba à Gatekakawe. Vous venez de l'entendre, au-delà des blessures et de l'exil, la résilience des journalistes est palpable. Ils continuent à informer la population malgré les nombreux défis liés à la vie en exil et aux difficultés propres à leur métier. C'est ici que nous mettons un point final à ce numéro de notre magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Pierre Garongo pour ce magazine. Et avant de clôturer cette édition d'aujourd'hui, écoutons l'appel lancé par l'organisation SOS Torture Burundi qui exhorte l'État burundais à mettre en œuvre et à respecter les recommandations formulées par le Comité des Nations Unies contre la torture.
Bonjour Excellence. Nous sommes ici pour vous parler d'un sujet urgent.
Je vous écoute.
Les cas de torture continuent, les droits humains sont bafoués, alors qu'il y a les recommandations du Comité des Nations Unies depuis l'an 2023.
Nous sommes intransigeants. Pourquoi cette insistance?
Yo, je suis innocent. Pourquoi me frappez-vous?
C'est un opposant. Ici, nous recevons des plaintes. C'est tout.
Stop. Ce n'est pas juste. La torture persiste au Burundi. Pourtant, le Comité des Nations Unies contre la torture a recommandé la fin aux détentions secrètes et de garantir l'accès à la justice dès l'arrestation.
J'exécute les ordres.
Les ordres injustes ne justifient pas la torture. À quand à l'ONU nos terres? Des crimes sont commis, des innocents battus, des disparitions forcées, mais personne ne répond de ces crimes. Où est la justice pour les victimes? Le gouvernement doit adopter des mesures claires de surveillance des prisons et doit former des forces de sécurité aux droits humains. À bas la torture!
Ces témoignages sont terribles. Si on n'agit pas, la communauté internationale nous isolera.
Excellence, une fois les recommandations appliquées, nous serons crédibles. Et des mesures sont prévues pour un accompagnement technique par le Comité des Nations Unies contre la torture. Le début est là.
Agissons alors.
Ayant reçu les doléances des citoyens et étudié les recommandations du Comité contre la torture, l'autorité s'engage à criminaliser conformité avec la Convention contre la torture. Mener des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et sanctionner les responsables conformément à la loi. Garantir aux personnes arrêtées un accès immédiat à un avocat dès le moment de l'interpellation.
Voilà ce que nous aimerions entendre d'un gouvernement qui respecte ses engagements au niveau international. Restons vigilants pour que ces recommandations soient connues et deviennent réalité. Peuplez vos regards, l'histoire retiendra si ces paroles sont suivies d'actions.
Trop de vies ont été brisées.
Ensemble, nous devons veiller à ce que la torture disparaisse à jamais. Les droits humains ne sont pas une faveur, mais un droit fondamental.
Un État digne doit protéger tous ses citoyens.
La torture est un crime. Demandons la mise en œuvre immédiate des recommandations des Nations Unies pour un Burundi respectueux des droits humains.
Ceci est le message de SOS Torture Burundi.
C'est la fin de ce journal, ce mercredi 14 mai 2025. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée chez vous et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.